Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Il est 19h04, on est ravis de vous retrouver, les VV citoyennes. Vous savez ce qu'on aime, comme on aime la citoyenneté. Et ce soir, nous allons parler patrimoine, parce qu'on adore ça à quelques jours. Des journées de patrimoine, alors que les Français sont de plus en plus passionnés par l'histoire. Le patrimoine reste un enjeu important et une priorité pour le développement régional, climatique et culturel.
En 2017, la France comptait 45 285 monuments historiques protégés. Cependant, seulement des milliers d'entre eux sont en péril. Charges, frais d'entretien, aides insuffisantes. Les propriétaires n'arrivent plus à faire face aux dépenses nécessaires et donc à la préservation de ce patrimoine.
Oui, bien sûr. Et comme chaque lundi, on va en parler avec nos experts. Aurélie Gros est avec nous. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Bonsoir
Cécile.
Plutôt.
Bonjour.
Stéphane Pellet, bonsoir. Vous êtes tous les deux coprésidents du G500, la plus grosse ONG citoyenne. On parle de 500 associations et de 500 000 sympathisants.
Et au sommaire, les constats. Beaucoup de propriétaires le disent. Entretenir et rénover le patrimoine français est un sacerdoce et pourtant ils se battent au quotidien. Avec vous, Aurélie Gros, on ira sur le terrain avec nos invités pour comprendre leurs difficultés.
Et puis les solutions avec Stéphane Pellet et ses invités, les modes de financement, les solutions de terrain, et puis vos appels au 0826 300 300, peut-être que vous êtes propriétaire d'un patrimoine, d'une maison, d'un château, vous voulez en parler, ou peut-être que vous avez des sous à donner, ce serait le moment de nous appeler aussi.
Et pour le invités. Patrimoine ou pour nous?
Et pour nous.
Ah bon?
Vous êtes le patrimoine de la radio.
C'est ça.
Tous les deux.
Merci, tant qu'on ne vous dit pas qu'on est des chefs-d'œuvre en péril.
J'ai pas osé.
Et on va démarrer tout de suite avec notre invité Bertrand de Beaugrenier. Bonjour. Merci. Attention, très
vous
très
parlez
près
bien dans le micro, si vous ne
merci
m'entendez
pas. De m'inviter.
Vous êtes le bienvenu. Vous êtes propriétaire du château de Ménil-Voisin, ingénieur et agriculteur. Et agriculture et diplômé de l'ESSEC et surtout passionné de patrimoine. Et on va faire un point avec vous, Aurélie Gros, justement, sur tous ces constats, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre tout sur la table.
Il faut mettre tout sur la table. Quand on regarde, le patrimoine français est exceptionnel, mais souvent dans certaines villes et surtout les villages de France, on voit qu'ils ont peine à rénover leur patrimoine par manque de moyens. Alors, est-ce que l'État doit être le seul à sauvegarder son patrimoine ou, en fin de compte, est-ce que les citoyens ont leur rôle à jouer,
doivent s'engager
pour sauver ces ruines, sans être ruinés, évidemment. mais pour le coup, je crois que cette question se pose. Beaucoup sont attachés pour des questions d'histoire. On parle beaucoup de la France, de la place de la France, et le patrimoine en fait partie. Et quand on voit des exemples comme Bertrand de Beaugrenier, qui s'est battu pendant 14 ans avec l'administration française et qui rénove son château depuis 30 ans maintenant, c'est vrai qu'on pose question sur ces initiatives citoyennes.
Justement, monsieur de Beaugrenier, Bertrand de Beaugrenier, justement, racontez-nous cette histoire. C'est-à-dire que vous achetez un château, c'est ça? Il y a quelques années. Alors attention, très
près. C'est le hasard, c'est mon ami Bertrand Lenaille qui un bon jour m'appelle en me disant il y a une maison formidable à sauver à côté de Paris. Et du coup, je me suis empressé d'aller visiter avec ma tendre épouse, et nous avons...
Le coup de foudre.
Non, on a pris quand même... on l'a vu que le lundi, et on a signé que le jeudi.
Si ça, c'est pas un coup de foudre...
Non, c'est un peu plus long qu'un mariage. Notre mariage, c'était un week-end.
Et il y avait tout à faire.
Et c'était une grande caserne enduite de ciment, par une restauration mal comprise, mais qui était formidable, qui avait toutes ses lettres de noblesse, puisque l'architecte était un certain François Mansart, l'artisan maçon, un certain Villedo, qui 18 ans plus tard fera Vaux-le-Vicomte, et un jardinier qui, à la fin du 17e, avait redessiné le parc, le nôtre. Donc avec ses lettres de noblesse, c'était formidable. Une situation incroyable, puisque nous sommes à 1500 mètres du RER, à 35 km de Paris. Donc c'est un Paris complètement fou. Mais dans la vie, il faut foncer, donc on a foncé. Et puis du coup, j'avais que comme seul axiome l'idée de dire que je voulais que ça soit une aventure, pas uniquement de pierre, mais aussi une aventure d'homme.
Ah oui.
Donc je voulais avoir mes compagnons qui relèvent le challenge dans les communs. Ouais. Donc j'ai tous mes ateliers dans le commun depuis 28 ans,
Aurélie Gros,
30 ans.
Ces histoires, c'est d'abord une histoire de passion, on le voit. Après, le financier arrive, et là c'est beaucoup moins drôle, mais forcément c'est presque une déclaration d'amour au patrimoine français.
Bien sûr, mais beaucoup de Français font des déclarations d'amour au patrimoine français. Je crois qu'aujourd'hui, l'exemple de Bertrand de Beaugrenier sur un château, effectivement, tout le monde ne peut pas racheter un château et le rénover, est un exemple sur un four à pain, comme on le verra tout à l'heure.
Du côté de la Bretagne.
Du côté de la Bretagne. Bretagne sur des équipements qui inspirent une histoire, qui réunit les gens autour de cette histoire commune qui font les villes et les villages de France. Mmh. Et quand, si je peux me permettre, monsieur de Brogrenier, mais quand vous avez entrepris la rénovation de ce château, on vous avait plutôt annoncé 75% de subvention.
On m'avait promis 50% de subvention par l'État, 25% par la région.
Oui.
Quand je fais le bilan aujourd'hui, 30 ans après, j'ai touché un peu moins de 6,5% des montants investis. Oui. Okay. Oui. Et c'est pour ça que, la seule recommandation que je peux me permettre à rééditer, parce que je l'avais déjà dit à Stéphane Bern, pour lequel je voue une grande admiration, parce que Stéphane Bern est un homme qui a refusé et les voitures, et les remboursements de frais, et les bureaux, donc c'est un homme libre, formidable. Et je lui avais dit que...
Et les éoliennes, excusez-moi, c'est ça.
Bien sûr.
Rajoute encore, mais c'est que mon point de vue.
Et il y avait trois mesures qui me paraissaient relativement simples et sans dossier, parce que j'ai une phobie de l'administration, parce que c'est insupportable. On est dans un monde de plus en plus fou. Et donc, l'avantage dont je disais à Stéphane Bern, la première chose qu'on pourrait faire, comme nous sommes les animateurs du territoire, ça ne demande aucun dossier, c'est nous dispenser de tout impôt foncier et locaux.
Oui.
Donc c'est petite gratte, mais il n'y a pas de dossier à monter. Deuxièmement, comme on fait des travaux, mais qu'on touche, qu'on récupère jamais la TVA, ben on devrait avoir TVA zéro, puisque moi ça fait quand même 30 ans que je travaille, j'achète des matériaux, que je crée de l'emploi. Mais
justement, avant de trouver les solutions, puisqu'on en parlera avec Stéphane Pellet tout à l'heure sur les solutions, est-ce qu'on ne se rend pas bien compte, forcément, quand on achète un château, combien ça vaut, et que finalement, derrière déjà à l'achat, et puis derrière...
Les travaux, ça n'a rien à voir derrière, par rapport à l'achat.
C'est ça.
Donc c'est une histoire de folie. Donc j'ai eu la chance d'avoir les moyens à l'époque qui m'ont permis de m'engager dans cette folie, parce que j'avais un projet qui est de dire, moi je pars du principe que les maisons font les familles, d'accord, mais c'est que les femmes qui font les maisons, d'accord, donc il faut être deux. Et deuxièmement, ces maisons, c'est des lieux de tradition et de transmission de valeurs, et donc il faut l'ouvrir, et nous, aujourd'hui, j'ai la chance avec ma famille d'être très tourné vers l'ouverture. Je reçois 4500 scouts par an, tous les jeunes d'Even, là, il y a Opéra, samedi, on chante Aïda, il va y avoir 6500 personnes qui vont venir pour les journées du patrimoine. J'en ai eu 7000 le 13 juillet pour le feu d'artifice, où les 6 communes se sont cotisées pour que les gens puissent voir le château brûler. C'est formidable.
Donc, de manière factice.
Mais ça ne ramène pas un rond.
Pour qu'on comprenne bien, c'est un château qui est classé.
Donc classé, ça veut dire intérieur, extérieur et parc.
Donc ça veut dire qu'on vous oblige à travailler les monuments historiques, vous oblige à travailler forcément avec les compagnons du devoir ou
alors, je ne sais pas si c'est
artisans.
Correct de le dire, mais j'ai envoyé promener tout. C'est beaucoup plus simple.
D'accord.
Du coup, j'ai jamais demandé une autorisation. Et donc, j'étais un hors-la-loi complet.
Ouais.
Jusqu'au jour où Jean de Boyeux, qui s'occupait du patrimoine notamment.
Qui a été ministre à l'époque.
Qui était ministre et qui était surtout à Matignon à l'époque.
Oui.
Est venu me voir en me disant: qu'est-ce que vous voulez? Du bleu, du rouge? J'ai dit: écoutez, je ne suis pas un sapin de Noël. Je n'ai pas besoin de décoration. Alors, il a dit: ne m'attendrez plus. C'est très grave, les hommes qui ne veulent pas de décoration. Et puis, 3 mois après, il est revenu. Il dit: il faut absolument donner une décoration à Bertrand. Qu'est-ce qu'on lui donne? Alors, finalement, il m'a donné les arts et les lettres, alors que je ne porte jamais, mais je les ai, ce qui me permet de dire que je suis en état de sainteté avec l'administration, et ça me permet d'envoyer balader encore plus vite cette administration que je ne supporte plus.
C'est peut-être ça le plus agréable.
Et c'est là ce qui est important, je vais juste ouvrir la porte sur la vedette du Ménil, qui est une légende qu'on a créée, la légende de Jean de Dieu plifié, d'accord, et que la légende a sanctifié, simplifié, prié pour nous. Je vous donnerai les jetons que la monnaie de Paris a frappé à ce sujet et tout.
Mais justement,
c'est une autre histoire.
Bertrand de Beaugrenier, quand on voit ce que rapporte le patrimoine à la France, Paris, 30 millions de visiteurs par an, première destination touristique mondiale, est-ce que vous n'êtes pas choqué qu'on ne vous aide pas plus parce qu'on vous a promis 75%, vous en avez eu 6. Alors vous me direz, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent.
Absolument.
Soit dit en passant, c'est un ami de Jean de Boyeux, Charles Pasqua, qui disait ça.
Moi, quand j'ai engagé mes vies vie compagnon, je me suis senti engagé à leur égard, et c'est par fidélité à cet engagement que j'ai tenu, quoi qu'il arrive.
Compter la vitalité que ça donne à un territoire, hein, on parle de l'Essonne, donc département de Grande Couronne, où la culture est souvent l'oublié des subventions d'État, donc ça rayonne, mais c'est des villages, hein. Lardy, ça reste un village, même s'il y a le RER, et ces petites communes n'ont pas les moyens, elles, d'entretenir un patrimoine de ce niveau-là, il faut être clair, et n'ont pas forcément les moyens non plus d'organiser ce que peut organiser M. Bertrand de Beaugrenier dans son parc. Donc, il donne à voir aussi à leur population. Donc, en termes d'animation sur la ville, pour ces villes et villages éloignés de Paris, c'est essentiel pour notre jeunesse aussi.
Et c'est la première fois que j'ai eu ce témoignage dimanche dernier, donc hier, d'un de mes voisins qui m'a dit « Mais attendez, c'est formidable !» Parce que grâce à vous, moi, ma maison, elle a pris au moins 20 ou 30%.
Voilà. Eh bien, écoutez, restez
engagement
avec nous.
Engagement et goût du risque. Parce que dans quelques jours, pour accueillir le concert Aïda, eh bien, vous n'avez pas hésité, vous avez ouvert la route, vous n'avez pas les autorisations et ça roule.
Et ça roule.
Bougez pas. On revient dans un instant. Vous allez nous raconter tout ça.
Vous êtes un aristo-anard.
0-826-300-300 si vous aussi voulez poser des questions ou partager votre amour pour le patrimoine français. On vous attend au standard. C'est les VV citoyennes avec Stéphane Pellet et avec Aurélie Gros du G500, et on les aime, ces citoyens, tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Et il en faut du monde, justement, pour veiller à ce patrimoine français. Il faut en prendre soin. On vous le disait, en 2017, la France comptait plus de 45 000 monuments historiques protégés. Cependant, vous savez, des milliers aujourd'hui sont à la peine, en péril, des charges, des frais. En tout cas, ça coûte beaucoup d'argent à ceux qui s'engagent pour les protéger. Et pour en parler, nos invités avec nous, alors déjà nos deux spécialistes, hein, Stéphane Pellet et Aurélie Gros du G500, Bertrand de Beaugrenier, est avec nous, propriétaire du château du Ménil voisin, et des nouveaux invités.
Alors là, on va debout de la France, ma chère Cécile. Bon, direction la Bretagne. Bonsoir Gilbert Léonard.
Bonsoir.
Vous êtes à Saint-Marc-sur-Couesnon, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, dans les Côtes d'Armor ?
Alors, c'est en Ille-et-Vilaine.
Parfait. Donc, vous, on va parler d'un four à pain que vous restaurez, ma chère Cécile, là, c'est plus au sud, direction Perpignan.
Et puis Jean-Michel Gallet est avec nous, bonsoir. Bonsoir, vous êtes avec nous ou vous n'êtes pas...
Oui, je suis bien là.
Ah, vous êtes là, bienvenue. Vous êtes habitant du quartier de Saint-Jacques, co-initiateur de sites et cités remarquables. Et avec Gilbert Léonard, on fait un petit point justement, vous. Vous êtes président de l'association historique Histoire et Patrimoine. La Bretagne est plus encline finalement à protéger son patrimoine ?
Je l'espère, mais souvent aussi ce sont des problèmes budgétaires. Hein. On a envie de protéger, et ça on l'a tous, mais c'est difficile d'arriver à protéger tout ce qu'il faudrait l'être, tout ce qui devrait l'être, pardon.
Alors, justement, vous avez une association de citoyens du patrimoine en Bretagne, vous restaurez un four à pain et une longère du XVIIe siècle. Alors comment vous est venue cette idée ?
Alors effectivement, nous c'est très modeste, hein, c'est une toute petite initiative de pas grand-chose. Hein, on a un four à pain qui se trouve au milieu du bourg, qui fait vraiment partie du patrimoine depuis toujours, et qui était en très mauvais état. La commune a acheté la longère et le four en 2018. Et puis l'association, voyant que la restauration n'était pas programmée pour bientôt, s'est retroussé les manches en disant on va voir si des bénévoles sont prêts à relever le défi de restaurer le four de manière bénévole.
Justement, Aurélie Gros veut vous poser une question. Ça doit être l'odeur du Quignaman qui sort du four qui lui a fait ça.
C'est ça. Tout à fait. En fait, en gros, ce que vous nous expliquez, c'est quand la commune n'ayant pas forcément les moyens de restaurer son patrimoine, parce qu'il y a des choix à faire budgétaires évidents, type construction d'écoles, agrandissement d'écoles ou autre, ne pouvait pas prendre en charge. Et donc, vous avez décidé de vous mettre en collectif pour pouvoir rénover ce four à pain. Mais vers quelle destination va aller ce four à pain, et comment s'est montée cette association ?
Alors l'association existe depuis une vingtaine d'années. Elle parle d'histoire, elle parle de patrimoine. Mmh. Elle essaie de mettre en lumière les éléments qui sont vraiment remarquables et puis de faire des animations autour de ces éléments de patrimoine. Et là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que on est constitué en commune nouvelle depuis 2019. Et donc, du coup, il y a eu énormément de choses qui ont été remises à plat et des projets, il y en a beaucoup, beaucoup. Malheureusement, quand il y a beaucoup de projets comme ça, on voit bien que la plupart du temps, il faut faire des choix.
Et on sacrifie le patrimoine.
Et voilà. Et du coup, sur le plan patrimonial, il y a, sur la commune nouvelle, il y a quatre églises. Enfin, si je ne parle que des églises, et il y en a une qui aurait vraiment besoin d'une restauration. Il y a une étude de fait et qui est. Je ne sais pas quand est-ce que ça pourrait être fait, parce qu'il y a pour plus d'1 million d'euros de travaux. Il y a une autre église à Saint-Marc-sur-Quénon. On a commencé, je pense, à monter un dossier et on devrait pouvoir le faire. C'est la restauration sur autour de 80 000 euros. Et du coup, les membres de l'association se sont dit, ben, à cette vitesse-là, le four, il va rester de côté. C'est évident parce que ce four, il faudrait entre 25 et 30 000 euros pour le remettre en état. Et manifestement, la commune n'a pas forcément les moyens de le faire. L'idée. Pardon ?
Non, on vous écoute.
Et du coup, on a commencé à faire le tour des bénévoles du secteur et on a trouvé quatre professionnels en retraite ou actifs, mais qui voulaient bien donner de leur temps pour expliquer la technique et puis même venir aussi sur le chantier nous faire voir ce qu'ils devaient faire au moment où ça devait être fait. Mmh. Alors, on a trouvé un maçon, on a trouvé un menuisier, un menuisier charpentier, voilà, des bonnes volontés, un couvreur, et puis un fournier, ce qui n'était pas le plus facile à trouver, parce que les gens qui savent refaire des coupes de four, c'est pas si fréquent que ça. Et donc, le chantier a commencé début mai. Et ça suit son cours.
On va prendre Jean-Michel Gallet, qui est habitant du quartier Saint-Jacques et co-initiateur du site de Cité Remarquable. Jean-Michel Gallet, comment l'aventure commence? Est-ce que c'est un coup de cœur, comme Bertrand de Beaugrenier?
Alors, pour le quartier Saint-Jacques, sûrement, puisque ça fait 15 ans que j'y habite.
Ouais.
Pour les villes, c'est un coup de cœur ancien, puisqu'en fait, je travaille sur le patrimoine urbain, ce qui nous change.
Oui, c'est vrai.
Du four à pain et du monument. Non pas, c'est une chose que je respecte, puisqu'elles sont incluses souvent dans des collectivités, dans des villages ou dans des villes. Donc, il est vrai qu'un quartier, c'est complètement différent. Mmh. On n'a pas forcément des monuments historiques, bien que si le quartier s'appelle Saint-Jacques, c'est parce qu'il y a une église et sûrement qui vaut la cathédrale, on va dire ça comme ça, il faut être un peu...
Allez-y, soyez chauvin un peu.
Chauvin dans son quartier. Seul problème, c'est qu'on a des moyens d'action qui sont très différents, parce qu'au lieu d'avoir un propriétaire, qu'il soit public ou privé, on en a des centaines. Au lieu d'avoir, des leviers fiscaux qui s'appliquent souvent à des personnes qui payent des impôts, par exemple. Mmh. Or, là, on est dans un quartier pauvre. Donc, en fait, les leviers fiscaux ne peuvent pas fonctionner, puisque les personnes, par voie de conséquence, ne peuvent pas avoir des avantages fiscaux, puisqu'ils n'en ont pas du tout. Et on est confronté dans les villes par rapport justement aux problématiques des monuments historiques et aux problématiques du petit et grand patrimoine, à une question beaucoup plus large et la mobilisation citoyenne, parce que je crois que c'est du coup un peu ma place ici de parler de personnes qui sont dans un quartier dit difficile.
Oui.
Le quartier Saint-Jacques est un site patrimonial remarquable, oui, mais le quartier Saint-Jacques est le quartier le plus pauvre de France. Ce qui peut sembler étonnant, c'est donc un des plus beaux quartiers de France et c'est le quartier le plus pauvre de France. C'est un paradoxe, en plus avec une grande communauté gitane qui, du coup, a tendance à se sentir aussi menacée Parce que dans la ville, c'est pas comme dans un monument. On vous annonce pas toujours ce qu'on va faire.
Ouais.
Jean-Michel, si je peux me permettre, parce que j'ai eu l'occasion, moi, de descendre dans le quartier Saint-Jacques, à l'appel des habitants du quartier de Saint-Jacques, notamment de Lino, d'Inounours, dans le quartier. je le cite, parce que je lui avais promis quand même de le citer, parce que c'est exactement. Donc on est deux à avoir promis. Pour le coup, qui était très inquiet, puisqu'on détruisait des pans entiers de ce quartier, soi-disant pour insalubrité et pour sûrement faire des programmes immobiliers plus récents. Moi, j'ai l'habitude de dire que le quartier Saint-Jacques, c'est un petit peu la Casbah d'Alger. Si on commençait à détruire la Casbah d'Alger pour y construire du Kaufmann & Broad, sans citer,
ça va être compliqué.
Donc, aujourd'hui, c'est vrai que vous pensez qu'on détruit le quartier, ou du moins, en ce moment, on ne reconstruit pas trop, on détruit plutôt certaines maisons pour casser la communauté, c'est-à-dire qu'on est capable de casser le patrimoine pour virer des communautés, ou quel est votre sentiment en tout cas là-dessus ?
Très court.
Parce que là, on est déjà très en retard.
Okay. Oui. Bon, je crois que il faut pas voir de la politique partout. Il y a aussi du laxisme et de l'incompétence. C'est-à-dire qu'en fait, la question du quartier Saint-Jacques, c'est la question du rendez-vous à la même heure entre une ville, une région, un État, un département. Et les habitants attendent que ces acteurs qui ont les clés de la bourse se donnent rendez-vous à la même heure, au même moment et au même endroit, c'est-à-dire dans le quartier.
Jean-Michel Gallet, restez avec nous, parce que là, il faut qu'on fasse une petite pause. On reviendra dans quelques instants avec tous nos invités, avec Stéphane Pellet, puisqu'on parle un peu des constats et il faut parler aussi des solutions.
Ça y est, j'ai mes thèmes, Cécile, Philippe. Vous allez voir, droit de l'immobilier, levée de fonds, tracasserie administrative, côté populaire ou non du patrimoine. C'est ça dont on va parler tout à l'heure avec nos solutionneurs.
Parfait. Il est magnifique. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix Citoyennes.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Eh bien oui, ils sont là, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, pour apporter des constats et des solutions aussi, parce que c'est le but de cette émission. On était avec nos invités. Bertrand de Beaugrenier est avec nous, Gilbert Léonard est avec nous, Jean-Michel Gallet est avec nous. Et avant on va inviter et présenter nos futurs, en tout cas, invités. Christophe Popovic est avec nous, directeur de la culture du département de la Haute-Savoie. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Béraud est avec nous. Bienvenue, architecte du patrimoine, en particulier en Île-de-France et en région centre. Et Patrice Lemoux, délégué départemental de l'Aveyron et de la Fondation du patrimoine. Bonsoir, messieurs. Un petit mot, justement.
Un petit mot, justement. Vous avez un pas petit de micro. Mot. Ah, on avait coupé le micro. Un petit mot, justement, pour conclure avec Gilbert Léonard et Jean-Michel Gallet. Jean-Michel, en 30 secondes chacun, Gilbert Léonard, qu'est-ce que vous attendez là ? On va parler des solutions.
Une petite solution qui, pour vous, serait prévue.
Alors, j'ai pas tellement de questions en fait, parce que.
Non, c'est une solution.
Bonne question.
On a parlé des constats. Une solution, la solution pour vous.
Moi, ce qui me paraît important de vous dire, c'est que le premier but, c'est la restauration. La deuxième, c'est la convivialité. Autour du four, évidemment, on le fera servir et on fera participer tous les habitants. Alors après, je ne sais pas ce que vous attendez exactement comme.
C'est un côté convivial, sympa.
Dans votre projet, je me souviens, pour en avoir parlé avec vous, ce qui est important, c'est surtout de faire vivre le bénévolat. Et ça, c'est génial. Et peut-être on en parlera tout à l'heure. Il faut faire quand même très attention, Gilbert.
C'est un lieu commun.
La question juridique, parce que les bénévoles, s'il y en a un qui tombe du toit...
Et Jean-Michel Gallet, votre mot en 30 secondes, qu'est-ce qui pourrait vous aider, comme on va parler des solutions ?
Ce qui pourrait nous aider, c'est d'abord que la ville ait un vrai statut dans ce débat. Mm-hmm. On voit bien que le monument ou l'objet reste la base de la définition qu'on donne au patrimoine. La ville n'a pas sa place, elle n'a pas le temps de parler. Et d'autre part, dans un quartier où justement... cette problématique n'est pas reconnue. Le ministère de la Culture ne suffit pas. Alors, je dis ça face à la Fondation du patrimoine.
Juste qu'on comprenne, la ville n'a pas de statut parce qu'elle ne le veut pas ou parce qu'on ne l'intègre pas dans ces discussions ?
La ville n'a pas de statut parce qu'elle est pour l'instant, le statut, on va dire, historique de la ville est rattaché au ministère de la Culture.
D'accord.
Or, on voit bien aujourd'hui que, de toute façon, c'est aussi le ministère de la cohésion des territoires, le ministère de la transition énergétique.
On va parler avec nos experts.
Voilà. Et donc, en fait, une des solutions, c'est que le problème de la ville et de la ville historique soit traité d'une manière interministérielle et non pas d'une manière strictement ministère après ministère. Et je pense que les habitants aussi ont besoin d'une transversalité. Les habitants, on ne peut pas les découper en morceaux. On ne peut pas les interpeller lors d'une simple enquête publique. Il faut qu'il y ait un débat continu sur la ville historique. Et je pense que la ville historique, d'ailleurs, est un excellent lieu pour débattre, parfois mieux que certains quartiers contemporains.
On vous salue, Kenavo Avéchal pour les Bretons et Adèle Bounanit pour les Catalans. Tout de suite avec...
Le dernier mot, peut-être de Bertrand de Beaugrenier aussi, sur le dernier mot. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui? Un mot?
La simplicité.
Oui. Une mesure.
Ça, en fait, c'est compliqué.
Sortir de toutes ces normes grotesques qui multiplient la complexité.
Bien dans le micro.
Et encourager les gens à la liberté d'entreprendre. Parce que l'argent n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil formidable. Et quand vous n'avez pas un outil, bah, vous ne pouvez pas travailler.
Et nos invités avec nous. Justement, Stéphane Pellet, on parlait des constats. Forcément, aujourd'hui, il nous faut des solutions pour tous ces gens-là. Vous l'avez dit tout à l'heure en teasing. Il y a pléthore de choses à faire, mais faut-il encore que ce soit organisé?
Exactement. Alors moi, je pense qu'on va tout de suite se tourner vers Stéphane Béraud, qui est là, architecte du patrimoine. On a un petit peu simplifié tout à l'heure sa présentation en disant Île-de-France et Région Centre, mais pas du tout. Il a plus de 140 projets qu'il suit avec ses agences en France, et on en parlait rapidement. Vous voyez, quartier Saint-Jacques, par exemple, beaucoup de propriétaires, une multitude de propriétaires, puis la ville qui n'a pas de statut, puis de l'interministérialité qui est demandée. Moi, j'ai envie de demander donc à Stéphane Béraud, comment on peut décortiquer tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire progresser? Qu'est-ce que vous avez comme piste? Et comment vous faites en matière de droit de l'immobilier? Par quoi vous commencez quand vous arrivez dans un quartier pour travailler sur le patrimoine?
C'est important en fait d'essayer d'intéresser les habitants en leur montrant qu'ils habitent dans des lieux qu'ils connaissent, qui sont très familiers, mais qui sont exceptionnels. Mmh. Et essayer de convaincre finalement d'être dans un lieu particulier, même un peu délabré, mais malgré tout qui a d'énormes ressources, c'est déjà le premier point que l'on essaie de mettre en avant. Notamment parce qu'on ne se rend pas compte les uns les autres, on a des vieux meubles, des vieux habitats. Donc déjà intéresser les différentes personnes, les différents habitants par le lieu où ils vivent. L'histoire du lieu également. Et puis les personnalités qui
ont vécu. Parce que ça, c'est souvent un problème. On est dans un quartier, on ne sait pas si on ne connaît pas l'histoire de son quartier, et même si c'est délabré parfois, c'est quelque chose qui est classé.
C'est ce qu'on essaie de faire. Alors pour un architecte restaurateur, notre formation c'est de restaurer le bâti, restaurer la matière, mais on est surtout en train de restaurer les savoir-faire des hommes, et c'est les hommes qui nous intéressent au travers de nos restaurations. Donc finalement, aller voir les gens et les habitants, c'est ce qu'on fait tous les jours, pour leur dire, écoutez, vous avez vu cette porte ancienne, arrêtez de mettre des coups de canif ou de les taguer. Et vous avez vu cet appartement au premier étage qui est délabré, mais regardez ces vieilles moulures, ces éléments qui rappellent le passé vraiment et le manifeste et très intéressant du quartier.
Mais puisqu'on est dans Stéphane la radio Pellet. Du parlons vrai et du cash, est-ce que vous ne pensez pas que sur le quartier Saint-Jacques, et que ça a été très très bien présenté tout à l'heure, le quartier à la fois un des plus beaux de France, ancien, donc le royaume de Majorque, une cathédrale, etc., mais en même temps le quartier le plus pauvre, et notamment où vit la communauté gitane, c'est le seul endroit de France où il y a un cœur de ville qui est habité par une communauté gitane. Est-ce que vous croyez que ça a de l'incidence, que d'une certaine manière les dossiers traînent un peu?
Ben moi, je crois que, en fait, sans être un spécialiste évidemment de la reconfiguration de l'habitat et puis du bien également que l'on peut apporter, que l'on peut avoir, du droit de la propriété qui est une affaire de spécialiste, je crois que c'est déjà de voir des gens, des associations se monter, ne serait-ce que les habitants peuvent très bien se réunir entre eux, essayer par des manifestations de poser des questions, parce que finalement, le patrimoine commence déjà au moment où on s'intéresse à ce que l'on devrait faire pour l'améliorer.
Mais ce qu'il faut, c'est que c'est toujours un engagement citoyen, en fait. On a l'impression que les villes, alors bien sûr, on va pas stigmatiser toutes les villes, parce qu'il y a des villes qui s'engagent et il faut le reconnaître, de dire que finalement, c'est le citoyen qui va, qui paye, qui travaille, qui s'engage et parfois ça fait plier, mais c'est quand même, ça reste quand même difficile.
Ça a toujours été le cas, c'est toujours finalement le citoyen qui a voulu sauver et l'ancienne manufacture et l'ancienne église ou l'ancien lavoir, ou voir le foire à pain comme on disait tout à l'heure. Et je pense que c'est cette action du citoyen, finalement le patrimoine, il a besoin du citoyen.
On va poser la question justement à Christophe Popovitch.
Exactement,
directeur de la culture du département de la Haute-Savoie. Christophe Popovitch, justement, quand on parlait de cet engagement citoyen, on disait que forcément des départements, des villes s'engageaient aussi. C'est le cas de la Haute-Savoie?
Alors oui, la collectivité départementale dont je fais partie s'engage très très fortement. Il faut savoir que les départements ont la compétence en matière de restauration du patrimoine non seulement protégé, au titre des monuments historiques, qu'ils soient inscrits ou classés, mais aussi non protégés. Et ça les différencie de l'État, parce que l'État, quand c'est du non protégé, même si c'est du patrimoine remarquable, il n'intervient pas. Après, pour revenir à aux questions que vous posiez, j'ai entendu des choses qui m'ont fait un petit peu vibrer et qui sont très importantes. Vous posiez la question, est-ce que le patrimoine, c'est populaire ? Oui, c'est une cause très populaire. Il n'y a qu'à voir le succès des Journées européennes du patrimoine pour se rendre compte que les habitants, les Français, sont attachés à leur patrimoine. Mmh. Et du coup, sur le sujet des solutions concrètes que vous évoquiez juste avant, moi, je crois beaucoup à cette idée d'investissement citoyen. D'abord...
Mais comment ça pourrait s'organiser, en fait ?
Concrètement, il y a deux volets, si vous voulez. Il y a un volet déjà qui est lié à la question que vous posiez à M. Béraud, qui est la question de faire prendre conscience aux habitants de la valeur de leur patrimoine.
Oui.
Et pour ça, ça commence déjà par des choses toutes bêtes qui peuvent être organisées par des habitants qui se regroupent ou qui font une association ou par la collectivité locale, ça peut être la commune. Il s'agit par exemple d'organiser des visites. Le simple fait que des visites soient organisées, oui, sur un patrimoine qui, a priori, n'est pas considéré par tous comme remarquable, pour que les gens s'interrogent en se disant « Tiens, mais si on fait visiter mon quartier, c'est donc qu'il est intéressant, c'est donc qu'il peut intéresser au-delà. » Et ça, c'est très concret, c'est tout bête, mais c'est très important, parce que dans l'estime que la population peut avoir de son lieu d'habitation, ça commence par la prise de conscience du fait que ce lieu d'habitation, il a une dimension remarquable. Plus que par des mesures plus moralisatrices du type « ne faites pas ça,
si, ouais,
ne faites pas
ça,
ça mais pas, ne dégradez pas ».
Patrice Lemoux, vous êtes avec nous, vous êtes délégué départemental de l'Aveyron pour la Fondation du patrimoine. Quel rôle joue la Fondation du patrimoine, justement, dans la préservation et la rénovation du patrimoine ? Patrice Lemoux, vous êtes avec nous ?
Est-ce que vous nous entendez ?
Patrice Lemoux ?
Il y a un petit bug.
Justement, vous allez pouvoir répondre, Stéphane Pellet ou vous, Stéphane Béraud ?
Oui, monsieur.
Ah bah allez-y.
Stéphane Béraud, allez-y.
Je vous avoue que je voulais rebondir là-dessus parce qu'il faut sortir vraiment.
Vous pouvez lever le doigt à n'importe quel moment. Hein, vous avez la parole.
Je vais le faire alors. Je voulais simplement dire et insister sur le fait que le patrimoine, effectivement, c'est la matière vivante. Nous, on est en train de perpétuer des gestes à travers la matière. On restaure, on refait, mais c'est vraiment le geste du compagnon d'autrefois qu'on restaure. Finalement, c'est un lien avec le passé. Et puis, c'est vrai que quand on voit des actions qui sont menées par les uns et par les autres, c'est parfois des gens qui n'ont pas forcément la culture, qui n'ont pas fait d'études historiques ou archéologiques, mais qui sont intéressés. Et alors, le patrimoine, à mon avis, meurt dans le silence. Si on s'intéresse, si on visite, quelle que soit sa qualité, sa qualification, on montre à tout le monde qu'on a un intérêt. Regardez les gens qui font vivre des vieilles locomotives, les personnes qui, tout à l'heure, restaurent le four à pain, je trouve ça magnifique, parce que le patrimoine, c'est
surtout
quelque chose...
Surtout qu'il va être réutilisé.
Et oui, justement, le patrimoine doit fonctionner.
Ouais, une machine
que l'on classe.
Il doit avoir une fonction, en tout cas, dans le.
On a retrouvé Patrice Lemoux. Justement, Patrice Lemoux, je rappelle que vous êtes délégué départemental de l'Aveyron pour la Fondation du patrimoine. L'Aveyron, vous avez quelques grandes villes, Rodez, Decazeville, Millau. Est-ce que le patrimoine est géré de la même manière dans les tout petits villages, comme il y en a dans l'Aveyron, ou dans les grandes villes ?
Pas tout à fait, puisque dans les petits villages, le plus souvent, le patrimoine est co-géré par des associations. Certains de vos interlocuteurs l'ont dit. Le monde associatif est beaucoup plus répandu dans les petits villages que dans les grandes villes. Donc, dans les petits villages, en campagne, autour de patrimoine emblématique et une culture forte qu'on retrouve dans le rural, qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les villes, on retrouve des associations qui sont motrices pour inciter les élus à restaurer, à sauvegarder, à s'intéresser à leur patrimoine, mais aussi pour le faire vivre. C'est le cas du four à bain du témoin que vous aviez tout à l'heure en Bretagne, que je salue d'ailleurs, parce que j'ai quelques origines de ce côté-là aussi. Vous savez d'ailleurs que la Fondation du patrimoine, qui est aujourd'hui une dame qui a 25 ans, qui a été créée à l'époque de... Donc, qui a été portée sur les fonts baptismaux, justement, sur un four à pain qui se trouvait sur le Larzac.
Oui.
Voilà. en Aveyron.
Justement, voilà. Monsieur Lémoux, quel conseil vous pourriez donner à cette association bretonne qui veut maintenant passer à la restauration de l'église, qui explique que sur son territoire de la communauté de communes, eh bien, il y a 4 églises. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qui est déterminant pour que vous puissiez les aider? Parce que je sais que vous abondez, vous hébergez en tous les cas un certain nombre de financements.
Voilà, alors nous, ce qu'on peut déjà dire sur ce type de, projet, porteur de projet surtout, c'est que pour moi, c'est déjà gagné. Parce qu'ils ont déjà pris conscience de ce que c'est avec leur patrimoine. Je suppose qu'ils ont déjà mis en place, ils en parlaient tout à l'heure, de repas, de convivialité, etc.
Oui, absolument.
Donc ils ont déjà recréé la notion de partage, qui est quelque chose d'essentiel. Et donc nous, Fondation du patrimoine, comme on intervient sur ce type de projet, en fait on a deux niveaux d'intervention aujourd'hui, enfin plusieurs niveaux d'intervention. En ce qui concerne un projet collectif, comme c'est leur cas, on intervient surtout avec un appel à dons, donc on peut les aider en signant une convention avec l'association, et souvent, le plus souvent d'ailleurs, en partenariat ou en co-signature avec la mairie. Donc on les aide à collecter des dons, et il faut quand même savoir qu'en France, on a quand même une quantité de donateurs très importante. Samedi, je vais inaugurer un petit projet dans un petit village, 230 feux, comme on dit, 230 âmes.
Oui.
Ils ont réussi à collecter 30 000 euros pour restaurer leur clocher.
Bravo l'Aveyron.
Ils ont surtout réussi à mobiliser 153 donateurs, imaginez.
Extraordinaire. On dit que les citoyens s'engagent pour leur patrimoine. Bah là, on est vraiment en plein dedans. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. 0826 300 300, vous vous engagez aussi, vous êtes propriétaire et vous avez envie qu'on vous aide à trouver des solutions. On vous attend au standard. C'est les VV citoyennes et c'est jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Ils sont là et avec nos invités, hein, Christophe Popovitch, directeur de la culture du département de Haute-Savoie, Stéphane Béraud, qui est architecte du patrimoine, en particulier en Ile-de-France et un petit peu partout en France. Patrice Lemoux, délégué départemental de l'Aveyron, de la Fondation de patrimoine. Et Stéphane Pellet, je pense qu'il voulait réagir.
Alors, je pense qu'on va repartir tout de suite dans l'Aveyron parce qu'on n'avait pas le deuxième volet d'aide que propose la Fondation du patrimoine. Donc, premier volet
très court. Le deuxième volet, justement.
Alors, deuxième volet très court. On anime aussi dans les départements, on a réussi à mobiliser des clubs de mécènes. Ce sont des entreprises qui se portent aussi au chevet du patrimoine. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le troisième volet pour les projets un peu plus importants. Nous pouvons aussi mobiliser, bien sûr, la fameuse mission Berne.
D'accord. Le patrimoine avec Stéphane Berne, absolument.
Voilà. On prend appui sur ces propositions-là et on prend notre hélicoptère citoyen et on fonce en Haute-Savoie. Je crois que le nouveau président, depuis quelques mois, de la Haute-Savoie est quelqu'un qui a décidé de mettre de l'argent sur la table en matière notamment de patrimoine. Christophe Popovitch, est-ce que vous financez des projets de citoyens? Est-ce que vous ne financez pas que vos projets, les projets des élus, des communes, ou est-ce que vous sortez le porte-monnaie pour les citoyens?
Oui, alors ça dépend dans quel sens on l'entend. Disons que sur un certain nombre d'opérations qu'on finance, qu'on contribue à financer, il y a des contributions citoyennes. Mmh. Après, je n'ai pas souvenir récent d'avoir eu un dossier qui soit d'abord porté par les citoyens sur le territoire. Désolé, cher Stéphane, j'ai pas cet exemple-là, mais les citoyens se mobilisent.
Ça va venir.
Les citoyens se mobilisent. La Fondation du patrimoine les aide beaucoup et c'est très important parce que cet attachement, j'en parlais tout à l'heure, cet attachement des habitants au patrimoine, il se traduit aussi par ça. Les gens sont prêts à faire un chèque.
Merci Christophe.
Sauver leur église ou le patrimoine vernaculaire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Béraud. Un dernier mot.
En 40 secondes, très rapidement. Moi, je voulais dire que les architectes, notamment du patrimoine, sont toujours à la portée pour descendre un petit peu de leur strade et expliquer aux uns et aux autres l'intérêt du patrimoine, et notamment aux plus jeunes. Cette dimension éducative, on la fait tout le temps, que soient les classes, pour leur apprendre à s'intéresser et tout simplement à s'interroger sur ce qu'il y a autour d'eux.
Eh ben, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été
la fin, Stéphane Pellet, en 25 secondes.
Bah, avec Aurélie Gros, on en parlait il y a encore quelques instants. Nous, pourquoi on se bat pour que les citoyens, en effet, se mobilisent, que ce soit Bertrand de Beaugrenier ou son château, et puis la Bretagne, l'Aveyron, etc. Mais parce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive cette mésaventure comme pour le château du Marais. Le château du Marais, c'est un des plus beaux châteaux Louis XVI, etc. Donc vraiment, c'est le Versailles de l'Île-de-France, en plus du Versailles connu. Et bah, ce château, il vient d'être acheté par un milliardaire tchèque pour en faire un hôtel de luxe. Alors moi, j'ai rien contre les hôtels de luxe. De temps en temps, ça pourrait m'amuser d'y aller. Mais là, c'est dommage parce que ça veut dire tout simplement que ce patrimoine ne sera plus accessible au grand public comme il était jusqu'à présent.
Il faudra qu'on les invite. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Restez là. Yvan Cujus, vous êtes avec nous.
Salut, je suis là. Bonsoir les amis, comment ça va?
En pleine forme.
On parlait de patrimoine. La musique est un patrimoine français.
Patrimoine culturel.
Exactement. On a la chance ce soir d'accueillir un groupe français qui a trouvé son son de rock français, en fait. Qui, maintenant, les États-Unis copient le son de Matt Bastard et de Skip the Usement. Il vous entend, il était hier sur la grande scène de la fête de l'humain, Matt Bastard, avec Skip the Usement. Et c'était bien, hein, Matt, tu t'es régalé.
C'était très très bien. Maintenant, j'ai des lunettes de soleil, même en pleine journée.
t'as compris comment ça fait la fête à l'humain.
C'est une autre sorte de patrimoine français, en tout cas. On va écouter cette émission avec grand plaisir, comme à chaque fois.
Et tu as un autre artiste invité, Yvan ?
Oui, on a également Yara Lapidus qui est là, qui va jouer en direct ce soir, comme tous les soirs dans le Loft Musique. Et voilà, et puis on va discuter, on va parler de tout, même d'actu, certainement. Il y a plein de choses à dire. Et Matt, il n'a pas la langue dans sa poche.
Tant mieux. Parlons vrai, c'est Sud Radio.
Exactement. Voilà. On est raccord.
Musique tout de suite.
Et que la fête commence. Allez, merci Yvan Cujus dans un instant. Donc le Loft. Et puis juste après, c'est Jacques Pessis demain matin, Benjamin Glaise. Et après, le grand matin, Sud Radio avec Patrick Roger. On vous souhaite une belle soirée.
Mais tout de suite, conseil de famille, comment gérer son patrimoine avec Stéphane Moller.
Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio, conseil de famille.
C'est aussi la rentrée pour Conseil de Famille. Conseil de Famille s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer ou transmettre un patrimoine. Tout au long de cette troisième saison, du lundi au vendredi, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel du patrimoine. Bonjour Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. La gestion du patrimoine chez vous, c'est une passion, c'est aussi votre métier depuis plus de 10 ans. Stéphane, quel sujet allons-nous aborder dans cette chronique ?
Eh bien, bonjour Philippe David. Alors, effectivement, comme les années passées, nous allons parler de droit de la famille, de fiscalité, de transmission patrimoniale, d'immobilier, de produits financiers. Et à la demande de beaucoup d'entre vous, nous allons parler de crypto-actifs. Et cette année, nous allons essayer de faire vivre cette chronique avec toujours plus d'invités, mais aussi de coller à l'actualité financière et économique qui est très très riche en ce moment. Nous parlerons inflation, pouvoir d'achat, épargne, crédit, etc.
Stéphane, en quoi consiste la gestion de patrimoine ?
Eh bien, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est tout à la fois l'architecte et le chef d'orchestre. Il vous aide à construire puis à gérer votre patrimoine.
Et à qui ça s'adresse ? Parce que lorsqu'on entend patrimoine, on comprend surtout fortune. En réalité, c'est un peu plus nuancé que ça.
Alors, c'est surtout plus large que ça. Ce que vous décriviez était encore juste il y a quelques années, mais ces dernières années, la gestion de patrimoine s'est largement démocratisée. Aujourd'hui, chaque personne qui a envie d'investir trouve une écoute auprès des professionnels du patrimoine. Ce qui est déterminant, c'est l'envie, justement.
On imagine que de ce point de vue, et vous pouvez en témoigner, les motivations sont souvent très différentes.
Et oui, on l'évoquait, ces motivations sont liées aux différentes étapes de la vie. En fait, il y a 3 grandes phases dans la gestion de patrimoine. Il y a la phase de constitution du patrimoine, vient ensuite le moment de gérer ce patrimoine. Et puis plus tard arrive la phase de transmission. J'ai acquis un patrimoine et je souhaite le transmettre à mes enfants. Le conseil en gestion de patrimoine intervient à chacune de ces 3 étapes.
Et j'imagine que vous faites intervenir beaucoup d'autres professionnels, autant d'experts dans leur propre domaine, banquiers, assureurs.
Oui, qu'on va recevoir ici d'ailleurs, des notaires, des avocats fiscalistes, des avocats en droit de la famille, des promoteurs immobiliers, des assureurs, autant de professionnels qui vont venir ici sur l'antenne de Sud Radio et qui viendront nous parler de leur métier.
Avec vous Stéphane, ce seront chaque jour autant de beaux conseils de gestion de patrimoine, ceux d'un professionnel aguerri, on l'a bien compris, c'est aussi d'un bon père de famille, ce que par ailleurs vous êtes aussi. Conseil de famille revient demain ?
Absolument, j'allais vous le dire, à demain Philippe.
Et tous les jours, vous pourrez retrouver les chroniques quotidiennes de conseils de famille famille sur le site de Sud Radio et n'hésitez pas à poser vos questions sur le blog de Conseil de Famille, conseil au pluriel, -6, 2-6, famille.com.
C'était Sud Radio Conseil de Famille.
Avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.